Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Podcast is a new radio.
Bon matin. Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour. Mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot. Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour, on passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. The other côté du Québec. Alors c'est vrai, au Québec, on parle français. Mais pas que. Le Canada est un pays bilingue, et même si la province de Québec défend bec et ongles la prédominance de la langue française, elle reste une oasis francophone dans un océan anglophone. Encore plus avec l'oncle Sam comme voisin immédiat. Cette réalité, elle vous sautera aux oreilles si vous venez du côté de Montréal, où franchement, ça cause pas mal anglais. Elle vous sautera nettement moins aux oreilles si vous vous en écartez et que vous vivez dans le reste du Québec. Mais ce n'est pas qu'une question de langue. C'est avant tout une question de culture. Dans le livre Code Québec, un livre dont on reparlera dans une prochaine émission, une étude nous apprend que 71% 90% des attitudes et des comportements des Québécois sont strictement identiques à ceux du reste du Canada, qui lui est très majoritairement anglophone. 71%. C'est pour cela que, si on se donne, et c'est le cas ici dans cette émission, si on se donne pour objectif de comprendre la culture et la société québécoise, il est impossible de ne pas se pencher sur cet aspect. C'est ce que j'ai appelé dans ma maîtrise légendaire de la langue de Shakespeare, The Other Côté du Québec. Pour en jaser aujourd'hui, j'ai invité Annabelle Roberts. Salut Annabelle.
Bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Ça va nickel.
Super. Alors, vous l'avez déjà entendu avec la réponse « ça va nickel ». Oui, Annabelle habite en France.
Alors là, oui, c'est ça. Donc, il va falloir faire une petite explication, je pense, parce que je suis un peu un puzzle, surtout si...
J'ai invité un puzzle.
C'est ça. Parce que je suis une Canadienne, mais anglophone, qui a une mère québécoise, donc francophone, mais qui n'a jamais parlé français à ses enfants parce que dans les années 80, quand les Québécoises se mariaient avec les anglophones, c'était pas bien. C'était des mariages mixtes, etc. Il y avait encore des tensions entre les anglophones et les francophones. Donc, je suis une métisse mi-québécoise, mi de l'Alberta. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Canada, moi, j'aime bien dire que c'est un peu le Texas du Canada. L'Alberta, avec une mère québécoise, dont une grand-mère québécoise et de la famille québécoise à Montréal et anciennement à Québec, mais qui a déménagé en France. Donc, il fallait, avec une mère québécoise, que je déménage en France pour apprendre le français de France. Et donc, quand je parle avec ma grand-mère qui est québécoise maintenant, elle me dit oh, « Qu'est-ce que t'as d'accent, toi ?»
Tu m'étonnes.
J'ai dit, mais c'est non, c'est toi avec l'accent.
Voilà. Ouais, bah oui, forcément. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, Annabelle, c'est justement parce que de cette personnalité que tu as et du fait que tu vives en France aujourd'hui, que tu aies un pied avec le Québec, mais un autre pied avec le Canada anglophone, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu quelles sont les différences vraiment culturelles de comportement qu'on peut rencontrer dans ce Canada anglophone. Je répète, hein, le Canada anglophone, ne vous faites pas d'illusions. Si vous venez au Québec demain pour y vivre ou pour visiter, vous allez devoir quand même vivre avec. Je vous rappelle comment ça marche, le Canada. Hein, c'est un pays fédéral. La capitale, c'est Ottawa, dans l'Ontario. C'est un pays fédéral et le Québec n'est qu'une province.
Région.
Voilà, c'est qu'une province. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'oasis francophone au milieu d'un océan anglophone. Je n'ai pas l'impression, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a encore cette lutte de chapelle entre anglophone et francophone.
Ça arrive. Mais il fut un temps, c'était le cas. Jean-Michel. Et il faut pas oublier que il y avait quand même un guerre entre les francophones, ceux qui les settlers comme on dit en anglais français et les settlers anglais en fait qui ont battu pour avoir le plus de territoire pour conquérir entre guillemets les territoires du Canada. Donc bon, autant que Canadien, c'est ça n'a pas été aussi sanglieux, si on peut dire ça comme ça, ou violent que des choses comme the Civil War in the United States ou ce genre de choses. Mm-hmm. Mais c'est pour répondre à ta question, pour moi, les différences entre des Canadiens anglophones et des Canadiens francophones, c'est extrêmement simple. C'est les Québécois parlent français suite à une colonisation de la France aux années 1600 et 1700. Et cette culture française, où on va dire que des empreintes de cette culture française, pour moi, c'est ça ce qui fait la seule différence entre des Canadiens francophones et des Canadiens anglophones. Il faut pas oublier aussi que moi, je viens de l'Alberta. Donc l'Alberta, c'est spécial. OK? Aux États-Unis, il explique qu'il y a un effet de parenthèse. OK? Que New York, Boston, Seattle, San Francisco, c'est pas les États-Unis. Les parenthèses qu'on trouve à l'extrémité des pays ne sont pas représentatif de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et c'est la même chose au Canada. Ce qu'on va retrouver un peu sur les parenthèses, ça veut dire les Provinces atlantiques. Ça c'est autre chose. Pour moi, les Provinces atlantiques, c'est un peu les colonies des cousins de la Bretagne. Moi, qui va souvent en Bretagne, que ma belle-mère elle habite en Bretagne, je retrouve beaucoup de la même nature et un peu les mêmes attitudes, etc. Mais quand on regarde Montréal, Toronto, Ottawa, etc. Après, on a Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Pour moi, c'est vraiment une autre culture, une autre manière de penser. Les gens, ils votent souvent un petit peu plus à droite. On va trouver moins de diversité dans les citoyens qui peuplent ces régions du Canada. Et hop, on retombe sur l'autre côte et on est à nouveau à Vancouver, Victoria, ce genre de choses. Et on retrouve un petit peu ces attitudes un petit peu plus cosmopolites, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, ce qui reste de la France au Québec, ça veut dire une appréciation très forte pour la culture, pour la littérature, pour l'histoire, pour la gastronomie, etc. Pour moi, on va trouver ça un petit peu plus chez nos amis québécois ou un petit peu plus facilement qu'en Alberta ou Saskatchewan ou Manitoba.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je me demandais, parce que je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec les États-Unis, et tu le dis très bien d'ailleurs avec ces parenthèses. Hein. Bon, d'ailleurs, on l'a vu lors de la première élection de Donald Trump où les démocrates gagnaient globalement les parenthèses assez facilement, dont on a souvent dit qu'elles avaient une culture assez européanisante en tout cas. Et par contre, toute l'Amérique, qu'ici on appelle souvent, enfin qu'en France on appelle souvent l'Amérique profonde, mais en fait qui est quand même juste 85% du territoire à peu près, était à peu près entièrement rouge avec un comportement très différent. Tu trouves que le Canada s'organise un petit peu pareil, on retrouve à peu près les mêmes mentalités?
Ben, je peux seulement parler de ce que j'ai vécu et mon expérience.
C'est le but.
Qui est quand même un peu particulier, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille mormone.
C'est particulier.
Ce qui est particulier et qui est une religion qui est connue pour être très conservateur. D'accord. Donc, il y a même des politiques aux États-Unis, mormons, Mitt Romney, par exemple, qui est républicain. Et même si je pense qu'au fond de lui se cache un démocrate, ça sera impossible que jamais de la vie il peut voter bleu, voyez. Donc non seulement est-ce que ma famille sont mormons, je suis l'aînée de 10 enfants, grandi dans l'Alberta. Et donc l'Alberta de mon enfance, je vais dire, je sais que des choses, ils ont changé depuis l'Alberta a voté NDP, ce qui est un peu la partie gauche pour la première fois de l'histoire il y a quelques années,
ouais,
qui est pour moi, j'étais bouche bée, j'ai dit waouh, les choses, ils ont vraiment changé. Hein. Mais l'Alberta de mon enfance, c'était pendant un moment où l'Alberta était un peu la caisse du Canada, parce que l'Alberta avait du pétrole. Et on avait du pétrole, on avait beaucoup de bois, on avait beaucoup de ressources naturelles.
Et c'est vraiment le Texas.
C'est vraiment le Texas. Et donc, c'est vrai que c'était un peu démesuré à tel point l'Alberta et le revenu qui sortait de l'Alberta à cette époque, parce que des choses, ils ont changé. L'Alberta n'a pas la même économie qu'elle avait pendant les années 90, où on payait 35 centimes le litre de pétrole, par exemple. Donc, mais à cette époque, c'était vraiment l'Alberta et les ressources d'Alberta qui payaient pour autre chose, qui payaient beaucoup pour ce qu'on trouvait dans le reste du pays. Okay, parce que comme tu as dit, c'est un pays fédéral. Et même s'il y a certaines choses qui sont gouvernementales par région, il y a des programmes fédéraux dont on utilisait l'argent qui était généré à l'Alberta. Donc mon père, qui a toujours voté à droite, à ma connaissance, parce qu'on n'a pas une discussion, on discute pas politique depuis que j'ai 18 ans, parce que c'est trop chaud patate, hein. mais à ma connaissance,
ouais, j'imagine.
Ah ouais, a toujours voté à droite, que par rapport à des discussions que j'ai pu avoir, parce que je suis partie très tôt du foyer, étaient vraiment des discours de droite, genre l'avortement c'est jamais, mariage homosexuel plutôt crevé, ok. Donc c'est la famille dans laquelle j'ai grandi. Donc je sais que tout le monde autour de moi votait à droite, tout le monde dans ma paroisse votait à droite. Après, je sais que au moment des élections fédérales, par exemple, on voyait que l'Alberta avait voté à droite, parti conservateur, et que on voyait le parti libéral en Ontario et au Québec. Donc, on voit un petit peu miroiter les politiques des États-Unis au Canada, mais à la manière canadienne. Ça veut dire que notre réputation d'être gentil et poli n'a pas été volée. Je pense que l'insurrection du capital canadien, c'est pas pour demain, par exemple.
D'accord, ok. Ouais, mais c'est vrai que je faisais le parallèle avec les États-Unis parce que j'ai depuis que je suis arrivé, bah tu me connais, hein, je suis assez passionné par les médias et les choses comme ça. Donc je regarde vraiment ce qui se fait ici. Et autant le Québec, donc c'est vraiment cette petite oasis, hein, de 8 millions de personnes. Alors certes grande comme trois fois la France, mais 8 millions de personnes, donc c'est plus petit que la région parisienne. Autant cette province se distingue par la volonté féroce de développer sa propre culture. C'est-à-dire que c'est absolument hallucinant de voir le nombre de séries québécoises qui sont produites. Les émissions, ici, on a La Voix, qui est The Voice, mais voilà, c'est un programme québécois. Ils viennent de relancer Star Academy, ils ont leurs propres émissions originales. Ils développent énormément de programmes véritablement, j'allais dire, locaux. Et quand je regarde ce qui se passe de l'autre côté du Canada, la très grosse majorité des gros programmes sont en fait que les programmes américains qui sont juste mis sur l'antenne des networks canadiens. Il n'y a pas cette volonté d'entre guillemets de défendre une singularité canadienne. C'est comme si on parle la même langue, on est voisins, allez hop, on met tout ça dans un espèce de grand tout. À tel point du coup que quand tu regardes des scores d'audience entre les émissions anglophones donc du Canada, donc qui recouvrent 80% du pays, et les émissions francophones du Québec, les scores d'audience sont supérieurs au Québec. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur une émission comme Bye Bye qui est l'émission qui clôt l'année. Voilà, c'est une institution ici. Ils font 5,5 millions de téléspectateurs au Québec, 8 millions d'habitants. Il n'y a aucune émission qui, dans tout le reste du Canada, arrive à avoir autant de téléspectateurs.
Mais ça ne m'étonne pas, parce que si on regarde un pays, par exemple, comme les Pays-Bas, OK? Les Pays-Bas est un tout petit pays avec une langue dont presque personne parle. Et c'est un des plus grands générateurs de concepts télé et de séries télé de toute l'Europe. En fait, ok. Donc les concepts télé qu'on va revoir à la télé, souvent ils ont démarré aux Pays-Bas, qui fait des tests, etc., pour du contenu pour leurs citoyens. Et pour moi, le Québec et le Québécois est une oasis de francophonie dans un océan. Et si on pousse la métaphore et on le rend encore plus visuel, si on peut, c'est un petit bateau avec des gens dans le bateau et l'océan tout autour. En quelque sorte, si y a un océan avant que vous arriviez à la prochaine bateau francophone, on va dire, vous allez faire très, très gaffe à votre petit bateau. Hein. Le moindre, vous allez le soigner et être sûr qu'elle est en parfaite santé pour que vous soyez protégé de cet océan autour. Donc, je pense que peut-être cet effet petit bateau dans une grande océan, ça contribue. Mais en tout cas, je suis admiratif. Moi, je suis admiratif parce que c'est... ça aurait pu être plus facile de tout sous-titrer, etc. Mais cette fierté et cette lutte pour garder la culture québécoise, en tout cas, moi, je trouve ça génial.
Ouais, franchement, c'est moi qui adore ce milieu-là. Ici, c'est un océan de culture qui est vraiment incroyable. Et pour reprendre ton allégorie que j'aime bien sur la mer et sur la petite barque, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment la marée qui t'emmène dans une direction et le petit canot québécois qui s'obstine acharnément à pas aller dans la même direction, en tout cas pas tout le temps. Et à prendre ses petits bras musclés, ses rames, et aller dans la direction que eux souhaitent aller. Mais c'est une lutte. C'est oui. Une véritable lutte. La lutte, on la retrouve aujourd'hui dans Montréal. Il y a eu, l'anglais est en train de prendre une place à Montréal qui dépasse, en gros, voilà, normalement, la langue numéro un au Québec et donc aussi à Montréal, c'est censé être le français. Il y a la loi 101 ici qui est une loi fondatrice qui explique que, par exemple, la langue du commerce doit être le français. Mm-hmm. Sauf que dans les faits, à Montréal, sur l'île de Montréal, l'anglais est en train de prendre le pas et ils ont fait des tests où ils ont constaté que dans des simples boutiques, des Zara, des choses comme ça, on te parle prioritairement dès que tu rentres en anglais et c'est parfois très compliqué de trouver quelqu'un qui va pouvoir te parler en français.
Vraiment ?
Vraiment, vraiment, vraiment. Là, ils sont en train de refaire justement peut-être une réforme de la loi 101. La ministre fédérale, cette fois-ci, du bilinguisme, vient de s'en saisir et annoncer un projet de loi parce que, notamment avec les nouvelles générations, j'en reviens au livre Code Québec dont on parlait au tout début, mais c'est très bien dit, il y a une forme de mondialisation qui est en train de passer, cette idée de défendre la singularité du Québec est un peu en train de se déliter, pas de se perdre complètement, mais de se déliter. La nouvelle génération n'a aucun, non seulement aucun scrupule, mais c'est même une revendication de regarder des séries sur Netflix et de les regarder directement en anglais. Je constate, moi, que j'ai des jeunes dans mon entourage ici et qui me disent, écoute, moi à la maison, avec mes parents, je parle français, mais avec les copines ou les copains, on parle tous anglais. C'est en train petit à petit de... On voit bien, les jeunes sont engagés dans beaucoup de batailles, la bataille écologique, des batailles politiques, et on a un peu l'impression que cette bataille culturelle et linguistique-là, ils sont peut-être en train de la mettre un peu de côté, comme si c'était pas forcément le sujet sur lequel ils avaient envie de se concentrer. Donc, ce côté lutte, il est, moi d'ici, je le ressens vraiment de manière très, très forte. Très forte.
Mais je me demande si ce n'est pas, je sais pas, quand je pense à des pays qui se trouvent peut-être dans des situations comparables. Et si je peux juste revenir de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le bateau, je viens de penser à quelque chose. Pour tous les Québécois et les Canadiens qui nous écoutent, j'espère que ça n'a pas été condescendant, mon commentaire. Hein. Le Québec, c'est pas une petite bateau, une espèce de dinghy ou de optimiste qui se trouve dans un mer américain. Pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que je trouve que les Québécois, ils sont conscients du fait que, comme on dit en anglais, use it or lose it. Soit ça se nourrit, soit un muscle, soit ça s'utilise, soit ça va se perdre. Mais pour revenir de ce que t'as dit, je pense à des pays comme la Danemark ou comme la Suède, par exemple. Les Suédois, ils sont pas nombreux dans ce monde. Ils parlent tous anglais. Ils regardent les séries Netflix, ils sont sur TikTok, les jeunes, etc. Mais quand ils retournent manger le repas du dimanche avec la famille ou quand ils sont à nouveau à la maison pour Noël ou je sais pas quoi, tout le monde est en train de parler suédois. Et les mamans vont parler suédois à leurs enfants, etc. Donc, pour moi, je pense que pour des Québécois qui veulent garder vivant la culture québécoise et continuer à le développer, évidemment, il faut être vigilant. Mais pour moi, peut-être les jeunes, ils ont autre chose à faire avant qu'ils arrivent à 25 ans ou 35 ans ou ils commencent à avoir des enfants et réfléchir en disant, bah, si oui, c'est vrai, est-ce que j'ai envie que mon enfant parle québécois, parle français? Mm-hmm. Et donc, les jeunes qui se soucient pas forcément de cette issue, pour moi, c'est un truc de jeune. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais moi, je suis pas inquiète. Moi, je suis pas inquiète parce que ça fait longtemps que je suis pas allée à Montréal, mais chaque fois que j'y vais, que ça soit dans le Tim Hortons, le Zara, la nana, c'est hello, bonjour. Si j'ai envie de parler français, je peux parler français avec quelqu'un. Si j'ai envie de parler anglais, je peux parler anglais avec quelqu'un. C'est pour moi, mon expérience, ça a été que ça reste fluide. Mais après, je serais intéressée de, comme tu as dit, de voir le data.
Effectivement, c'est très récent. Je vais pas forcément la portée, à dire complète de comment ont été faites les études. Ça a été suffisamment entre guillemets choquant ici pour que les dégouvernements fédéral et provincial s'en saisissent. Mais c'est une inquiétude. Voilà, la question de la langue, c'est une inquiétude. Et pour revenir au sujet sur The Other côté du Québec, je trouve...
Le bilinguisme, l'autre côté au côté du Québec, tu peux crever la bouche ouverte. Hein. D'ailleurs, c'est tout un sujet. D'ailleurs, c'est tout un sujet parce que la plupart du Canada parle anglais, mais pour avoir accès à des meilleurs postes dans le gouvernement et les fonctions les plus hautes dans le gouvernement canadien, il faut absolument parler français et pas un peu. Il faut être bilingue. Donc, c'est tout un débat hein, que les gens qui viennent de Colombie-Britannique, on oublie la taille du Canada quand même. On oublie la taille du Canada qui est des milliers de kilomètres de l'autre côté du pays, qui veut travailler dans le gouvernement et peut-être commencer à avoir des responsabilités fédérales. Mais tu parles pas parfaitement français. Donc, dommage. Refus.
Ouais, c'est un vrai souci, effectivement. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table, des deux côtés aussi. Voilà, c'est compliqué quand même d'avoir un pays bilingue.
Pour moi, c'est compliqué, mais c'est riche. J'adore être d'un pays qui a su faire coexister deux langues. Et je ne vais pas dire deux cultures parce que pour moi, vraiment, les Canadiens francophones et les Canadiens anglophones, de ce que je connais, il ne faut pas oublier que ça fait 15 ans que je n'ai pas vécu dans le pays quand même. Donc, un pays peut beaucoup, beaucoup changer dans 15 ans. Donc, autant que j'ai beaucoup de contacts au Canada et je garde du contact un petit peu avec ma famille, évidemment, je n'ai pas vécu au Canada depuis 15 ans. Mais pour moi, ça m'a choqué, par exemple, d'arriver ici en Europe et voir qu'une langue sur les boîtes de céréales. Je vais dire des Cheerios, c'est en anglais et c'est en français et c'est normal qu'il y a les deux langues sur les boîtes. Ça me fait marrer d'entendre des Américains qui sont irrussés parce qu'il y a de l'espagnol sur leur boîte de Cheerios le matin, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde aux États-Unis qui, leur première langue, c'est l'espagnol. Et j'ai dit, this is America, we shouldn't have Spanish on our Cheerios boxes, pourquoi il y a de l'espagnol sur mes Cheerios, machin, nanana. Et moi, je suis là, genre, écoutez, mec, ça fait toute mon enfance que j'ai eu deux langues sur mes boîtes de Cheerios et j'ai pas un cancer encore hein, donc vous allez survivre donc
Mais c'est vrai que c'est extrêmement riche hein, c'est extrêmement riche. Faut juste en prendre la dimension. Voilà, quand vous traversez l'Atlantique et que vous arrivez ici, même si vous allez pas directement dans la partie anglophone, vous atterrissez juste à Montréal. Voilà, sachez que le Québécois que vous rencontrez est à 71% canadien. Voilà. Donc aussi un peu anglophone, et seulement à 29%, purement, j'allais dire, singularitairement, je ne sais pas exactement comment dire, québécois. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a un autre point sur lequel j'aurais voulu revenir avec toi, c'est parce qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais tu as récemment écrit un livre qui s'appelle « La théorie de la veste ». Alors moi, j'ai eu la chance de le lire il y a pas mal de temps, parce qu'il est sorti en France il y a quelques mois, il est en train de sortir au Québec. Et ce livre, je trouve intéressant d'en parler, parce que mon sentiment, c'est qu'il n'a plus été écrit que par une personne, alors en l'occurrence canadienne, mais de culture anglophone. Jamais quelqu'un de culture francophone n'aurait pu nous écrire la théorie de la veste, où en gros, je schématise, mais tu vas nous l'expliquer. Tu as réussi à transformer ce que communément le français moyen appellerait simplement des râteaux, des échecs, donc quelque chose de négatif, en quelque chose non seulement de positif, mais de très constructif.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour réussir dans le business. C'est quand même une vision de, je reviens, de l'échec qui est singulière territoirement. Ça fait deux fois que je le fais ce mot-là, il faut que j'arrête parce que je le maîtrise pas. Très différent de ce qu'on peut commettre. La théorie de la veste, c'est quoi ça donc?
Donc déjà, la théorie de la veste, quand j'ai su que ça allait sortir à Québec, le titre était tout un polémique parce que n'importe quel Français le sait que se prendre une veste, c'est de se faire rejeter, c'est d'entendre un non merci ou ça m'intéresse pas ou j'ai appris parce que j'ai donné une conférence ici à Québec, donc j'ai une copine, Annick, qui est absolument adorable, que j'ai rencontrée ici à Paris en faisant un programme sur des femmes entrepreneurs, et qui m'a dit « c'est absolument génial ce que tu racontes, il faut que tu viennes à Québec et que tu nous fais une conférence sur la théorie de la veste ». Super. J'y vais à Québec, une cinquantaine de femmes dans une belle pièce, dans un grand immeuble à Montréal, etc. Et je fais toute la théorie sur la théorie de la veste, etc. Ça dure 45 minutes. J'ai dû dire la théorie de la veste peut-être 100 fois, ok? Donc, tout le monde a applaudi la conférence, mais bien applaudi, hein? J'ai dit, as-tu des questions? Première question. Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un veste? J'ai dit, bon... D'accord.
Ok, on va recommencer.
On va recommencer. Et donc, quand je l'expliquais, elle me dit « Oh, en québécois, ça veut dire se prendre des claques sous la gueule. » J'ai dit « Voilà, c'est la théorie de la claque. »
Sous la gueule.
Voilà, sous la gueule, ok. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est que quand je suis arrivée dans ce pays, je ne parlais pas la langue, je n'avais pas de réseau. J'avais un chouette job, mais que j'avais envie d'arrêter parce que un chouette job, c'était pas un job pour moi. Et j'avais envie de commencer mon propre cabinet. Mais le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que tant que t'as pas de clients, t'as pas de boîte, en fait. T'as un loisir. Et il fallait trouver des clients. Sauf que quand je voulais trouver des clients, j'avais plein de films qui me jouaient dans la tête. J'appelle des gens, j'avais une chouette réseau, hein. J'appelle des gens et ils me disent, mais pourquoi vous m'appelez? Mais vous êtes qui? Je me souviens pas de vous. Ou, c'est où vos locaux? Vous avez commencé une société, vous êtes basé où? Vous êtes dans le 8e? Ah non, pour l'instant, c'est dans ma buanderie, genre. Donc, j'avais toutes mes insécurités qui me créaient des films et cette peur de rejet, en fait, m'empêchait de se lancer. Ce qui est complètement stupide parce que j'étais bloquée dans un spirale vers le bas qui n'allait jamais terminer si j'ai pas fait quelque chose pour arrêter cette peur du rejet. Et donc, je me suis dit que, allez, droit au but, comme on dit en anglais, cold turkey, dinde froide, j'arrête ces insécurités, je peux pas quitter cette buanderie tant que j'ai pas pris trois claques, trois rejets, trois vestes. C'est ça ce qui me fait peur. Donc, on va s'affronter à ce qui nous fait peur. On va en prendre plein la tronche. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est là où il est né ma fascination avec le rejet. Et c'est là où il est né la théorie de la veste. Et la théorie de la veste, finalement, c'est quoi? C'est comme une espèce de... C'est comme des gens qui disent pour être belle, il faut être mince. C'est gentil ce que vous dites là. C'est pas si facile que ça, perdre du poids. Et là, ça devient beaucoup plus facile quand on a un régime à suivre, un plan d'exercice qui a été fait par un coach, une copine qui est là, qui fait ses exercices avec nous le matin et on fait nos courses à pied ensemble, etc. Donc, la théorie de la veste, c'est comme la régime pour ceux qui veulent oser plus. pour ceux que ils ont vu la femme de leur vie se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'ils pouvaient pas trouver le courage de leur demander en date. Pour la personne qui a perdu un contrat, son concurrent a signé le contrat à sa place parce que il avait pas le courage d'appeler la personne dans son réseau et leur demander le rendez-vous. D'accord? Et donc, la théorie de la veste, c'est quoi? Après beaucoup de recherches dans ce que c'est le rejet, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est rejeté, quand on a une peur de rejet, j'ai développé un théorie qui, dans, si vous faites ces deux choses-là, vous êtes bien démarré à faire la théorie de la veste. Donc, il y a trois étapes dans la théorie de la veste, mais je vais juste en parler de deux, parce que déjà, ça va vous faire du boulot. Le premier, c'est de vous fixer un quota de veste à prendre tous les jours. Okay, un quota de veste à prendre tous les jours. Vous n'allez pas perdre du poids si vous ne comptez pas les calories de ce que vous mangez. Vous n'allez pas perdre du poids si vous ne faites pas gaffe à ce que vous mangez ou le temps de sport que vous faites, etc. D'accord? Donc, vous n'allez pas oser plus ou surmonter votre peur de rejet si vous n'avez pas un quota de veste à prendre tous les jours. Donc, moi, c'est 3 par jour et 2 le week-end, par exemple. OK.
Donc le week-end.
Bah oui.
Même le week-end.
Bah oui. OK. Donc qu'est-ce que c'est une bonne tentative de veste? Il faut pas je veux dire que prendre des claques pour prendre des claques, ça fait mal, ça rien d'autre, d'accord? Donc le but c'est pas de se faire mal et juste prendre des claques histoire de prendre des claques. Non. Le but c'est d'accomplir son ambition. Et donc une bonne tentative de veste a 3 critères. La première, c'est que il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Le but, c'est de muscler votre muscle de l'audacité et non pas juste de loser dans tous les sens, d'accord? C'est, si vous losez pour loser, vous êtes un loser, d'accord? Donc, un quota de veste, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste parce que c'est là où vous allez toucher des opportunités où vous ne pensez pas possible, ok? Moi, toute seule dans ma buanderie, quand je me suis dit « tiens, allez, je vais faire ma veste », j'ai signé des contrats, j'ai eu des rendez-vous commerciaux de la part des gens que j'en étais sûre que c'était non. Donc, en fait, j'étais en train de me priver des opportunités juste parce que j'étais sûre que c'est non, en fait. Okay? Donc, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est non. Le deuxième critère d'une bonne tentative de veste, c'est que si jamais ce n'est pas une veste, ça vous emmène vers votre ambition. Donc souvent des gens ils vont me demander ah vous êtes la dame du rejet, vous êtes la dame des vestes, est-ce que vous allez demander à le garçon du café, le garçon du restaurant de vous offrir le café après histoire de se prendre une veste? Je dis ben non, parce que mon ambition c'est pas d'être la fille la plus caffinée de la quartier, du quartier. OK? Ma but c'est de des choses qui sont chères à moi, c'est-à-dire que développer le chiffre d'affaires de mon entreprise pour proposer plus de salaire à mes employés, faire avancer la cause de l'égalité homme-femme, ce genre de choses, OK? Et donc si jamais ce n'est pas une veste, ça vous avance vers votre but. Et le troisième critère d'une bonne tentative de veste, c'est que dans aucun cas est-ce que une veste doit nuire à ta réputation? D'accord? Ta réputation ou celle de ta famille ou celle de ta maison ou celle de ta société, si tu prends des vestes au nom de ton employeur. Dans aucun cas, est-ce que ça doit nuire à ta réputation? Donc, il y a plein de conseils dans le livre pour faire gaffe à votre communication, pour que vous puissiez tenter vos vestes ou tenter vos claques sans mettre en danger votre réputation ou être un peu lourd, ok? Mmh. Et ça, c'est la théorie de la veste. La deuxième chose, c'est que, soyons honnêtes, même si on peut se féliciter d'avoir rempli son quota, ok? Toi, Jean-Michel, si tu dis que moi, j'ai envie que Barack Obama participe à mon podcast, ok? Ou quelqu'un d'autre, par exemple, qui sera l'invité de tes rêves?
Bah là, par exemple, j'ai essayé de contacter... Et j'ai pris mon courage à deux mains, parce que pour moi, c'est une veste assurée, le Premier ministre du Québec.
Ah ben super, ok.
Je lui ai écrit super. Il y a deux jours.
Ok, voilà. Super, ok. Et donc là, on imagine que 48 heures plus tard, il t'ignore, ou c'est même une veste définitive. Le chef du cabinet t'informe, notre cher Premier ministre n'est pas intéressé de participer à votre podcast. Ceci dit, bienvenue dans ce pays et bonne route, ok. Bon, c'est une veste. Oui, poli, mais c'est une veste et ça pique quand même parce que le rejet, ça sent jamais super, ok? Sauf si vous êtes un sadomaso. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'envoyer un message parce que je vais être ta copine de la loose, ok? En québécois, ils appellent ça le flop friend, la friend de la flop. Et c'est la personne auquel tu sais que tu veux faire appel à eux quand ça va pas, quand tu prends un rejet ou une veste ou une claque particulièrement douloureuse. Et moi, je vais te reconforter dans ta veste en disant des choses comme « Bravo Jean-Michel, tellement de gens n'auraient pas osé à ta place. Et toi, t'as osé. Ça, c'est super. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Bravo, t'es un super loser. Ça, c'est une veste de compète. Ça, c'est une veste de champion. Bravo, je te félicite. Ta copine de la, ta flop friend, elle est fière de toi. » Tu vois? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tu l'as fait toi-même. On a un petit sourire. On a un petit rigole.
Bah oui.
Et on peut changer la relation que nous avons avec le rejet. Nous puissions dire que, bon, là, j'ai pris une grosse veste, mais j'ai les récompenses de dire à ma flop friend et je sais qu'elle va me reconforter, elle va me rappeler que je suis géniale. Tu vois?
Je vois très bien. Je vois très bien. J'essaye de pratiquer.
Tant mieux.
Je suis tes conseils.
Bah, ça, c'est une bonne tentative de veste. Hein. Je suis fière de toi.
La théorie de la veste, ce que je disais en introduction, est-ce que tu penses que tu aurais pu l'écrire si tu étais né en France, bercé de culture française à l'éducation nationale française, tout aussi entrepreneuse que tu es, hein, parce que tu diriges une super belle boîte qui s'appelle Présente Perfect, avec une vraie philosophie et tout, mais voilà. T'aurais créé cette boîte, tu serais né ici, mais est-ce que t'aurais pu penser à quelque chose comme la théorie de la veste? Moi, mon sentiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que ça peut sortir que d'un cerveau anglophone.
I don't know. Dans un premier temps...
Dites-le en anglais.
Ouais, I don't know. Dans un premier temps, pour écrire le livre en français, parce que malgré les années passées dans ce pays, je suis toujours une... quiche quand il s'agit d'écrire la langue française, et c'est un truc à se faire saigner des yeux quand on doit lire le français que je vais écrire. Donc, si j'étais née en France déjà, j'aurais la capacité linguistique de pouvoir écrire dans un français correct.
Ouais, parce que, je te rassure, le livre est quand même très très bien écrit et accessoirement, il est effroyablement drôle. Voilà, vous le conseillerez tous, mais voilà. Je vous conseille c'est le chapitre 8, je crois, on n'en parle pas. Hein, mais
Non, mais figure-toi que, imagine la traduction en québécois du chapitre 8. Figure-toi qu'on a juste laissé tel quel. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'influence française et certaines, on va dire, libertés qu'ils ont de parler de certains sujets que nous, les anglophones, n'ont pas, qui m'a permis de tirer une telle métaphore. Vous êtes tous
intrigués. Oui, c'est sûr. Voilà. Vous allez trouver toutes les coordonnées sur les commentaires du podcast ou sur le site pour vous procurer le livre, qui est déjà sorti en France et qui sort au Québec. Vous allez voir le chapitre 8. N'y allez pas directement quand même. Hein. Lisez les 7 premiers avant parce que faut vous préparer au chapitre 8. Sinon, vous allez trouver que c'est juste complètement hallucinogène. Et je vous rassure, quand Annabelle l'a écrit, elle n'était pas sous la, sous substance
de quoi que ce soit.
Voilà. Elle était tout à fait saine d'esprit. Donc oui, c'est vrai, t'as raison, ce chapitre-là, il est pas du tout, enfin on n'est pas du tout dans le puritanisme anglophone, ça c'est sûr.
Mais pour répondre à ta question, je dois vraiment, je sais que c'est pas, ça fait pas le meilleur interview de dire ça, mais vraiment ma réponse c'est je ne sais pas.
C'est bien comme réponse, je trouve.
Oui, voilà, il faut pas oublier que j'ai grandi dans l'Alberta. Mais j'ai quand même grandi dans des conditions particulières. C'est pas toutes les familles en Alberta qui ont 10 enfants. C'est pas toutes les familles en Alberta qui sont très croyants et orthodoxes mormones. Donc, je pense que un peu comme des adolescents, plus que quelque chose est interdit, plus qu'ils sont attirés par, c'est la même chose pour moi. C'est autant que femme mormone, il y avait jamais d'espérance ou d'attente que j'ai une grande carrière, que je sois une grande entrepreneuse, que je gagne une très grosse salaire, que j'ai plein d'employés. Et c'était même découragé. Je vais dire que autant que mormon, on est c'est souvent répété qu'il faut vivre dans le monde, mais pas de le monde. Et être mondial dans le langage mormon n'est pas bon. Ça veut dire que vous vous confiez pas à ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire la famille, la foi, la religion, des textes spiritueux, etc. Vous occupez avec des distractions telles que les voyages, les grandes études, l'argent, des belles choses, le luxe. Ok, donc tout ça c'est pas bon dans le mormonisme. Et Et moi, j'étais attirée par ces choses-là. Et comme c'était interdit, je pense que c'est pour ça que j'ai fait un espèce de bond dans l'autre direction, à vivre à Paris, le capital du luxe, grande ville internationale, etc.
Mmh. Ouais, effectivement, je pense que la théorie de la veste ou la théorie de la claque sur la gueule n'est pas un gros succès littéraire chez les Mormons.
C'est, non. J'ai fait un vidéo sur internet avec un média ici en France qui s'appelle Combini qui parlait de mes expériences mes expériences chez les Mormons et ils m'ont envoyé un mail en disant félicitations, vous avez généré parmi le plus de commentaires qu'on a jamais eu sur un vidéo parce que tous les Mormons et après j'ai eu beaucoup de Mormons qui m'ont contacté avec gentillesse, hein, pour me dire, si jamais vous avez envie de retourner à la foi, je peux être là pour vous accueillir. voilà, je suis sûre que vous allez revenir un jour, etc. Donc,
ouais,
c'est pas voilà, pour demain, c'est... mais je m'interdis rien.
Oui, ça c'est sûr. Mais sur le peu que je te connais, ça me semble pas pour demain, tout de suite, oui.
Non.
Ça risque de venir très franchement sur le tard.
Mm.
Reste que pour moi, ma lecture à moi, parce que toi, t'as dit je ne sais pas, mais je reste persuadé que même si les choses sont en train de changer, cette manière de transposer l'échec, le râteau, la veste, la claque sur la gueule, appelons-la comme on veut, mais de la transformer en stratégie gagnante au final, parce que ça se trouve, je vais avoir le Premier ministre François Legault à ce micro, un de ces quatre, on ne sait jamais.
Ça sera juste top.
Et ça serait déjà... Ceci dit, hein, je suis quand même... Tu vois, ça m'a vraiment servi, parce que depuis que je suis ici, c'est peut-être aussi lié au fait que le pays est plus petit, mais je ne m'interdis absolument rien au niveau des prises de contact.
C'est bien.
Et ça marche.
Tant mieux.
Et ça marche. L'autre jour, je voulais avoir quelqu'un sur la météo. Je savais pas à qui m'adresser. Donc moi, tous les matins, je regarde une émission ici qui est l'équivalent de Télématin, qui s'appelle Salut Bonjour. Mmh. Il y a la présentatrice météo. Je lui ai carrément envoyé un message et je vois. Et on était en train de discuter par message interposé entre deux chroniques météo qu'elle faisait en direct. Ça marche.
Oui.
Voilà, ça marche. Et il y a quelques années, je l'aurais certainement pas fait. Notamment avant d'avoir lu ton bouquin, sincèrement, parce que je me serais dit, non, c'est bon, j'ai pas le temps, c'est un râteau assuré, effectivement, donc je vais pas perdre mon temps avec ça, je vais plutôt aller choper quelqu'un qui me semble plus accessible.
Donc ça, c'est pour ça que le quota de la veste est important, parce que les gens, ils disent, non, mais c'est un râteau, donc je vais pas perdre mon temps pour ça, mais si on le sait qu'on a dévoué 15 minutes par jour à la ramassage de râteau, c'est, voilà, on sera étonné de le retour sans investissement que nous puissions avoir. Et quand j'ai écrit le bouquin, je parle d'une stratégie d'investissement que nous puissions trouver qui s'appelle « the barbell strategy ». Et je ne sais pas dire ça en français, c'est les poids qu'on va soulever quand on va à la salle de sport qui a un poids d'un côté, un bar, donc rien au milieu, et un poids de l'autre côté. Et c'est pour parler d'une stratégie d'investissement pour ceux qui travaillent dans la finance et qui font des portfolios d'investissement actifs qui passent leur temps à essayer de gagner de l'argent et donc qui investissent dans des choses qui sont plutôt sûres, histoire de ne pas prendre des vestes. Parce que prendre des vestes en finance, là, pour le coup, on peut vraiment voir ce que ça fait au portefeuille. Okay? Et donc, ce qu'ils font, c'est que ils disent que pour diversifier ma portfolio, je vais investir principalement dans des choses qui sont sûres, très certainement vont apporter un retour sur investissement, mais je garde ce petit parti de mon portfolio pour investir dans une espèce de dinguerie qui m'intrigue, que mon intuition me dit il y a peut-être quelque chose, etc., mais il y a forte chance que c'est la lose, il y a forte chance que ça serait une perte. Okay? Mais ce qui est génial avec le barbell strategy, c'est que souvent, quand ça paye, qu'est-ce que ça paye? Et c'est la même chose avec la veste. Okay? Donc là, on se dit que quand on investit de cette façon, on considère que cet argent est perdu de toute façon.
Exactement.
Donc, c'est la même chose pour toi. Si on dit que mon quota de veste, j'ai 15 minutes par jour où je dois essayer d'échouer avec la plus de charisme possible pour ne jamais abîmer ma réputation et aussi pour me faire une espèce de coquille qui me rende fort au rejet, ce qui veut dire que c'est comme ça que je vais oser, ces 15 minutes, ils sont perdus de toute façon. Mais comme c'est vraiment des dingueries dans lesquelles tu investis, je pense que ça va faire du bien pour ton podcast le jour où le Premier ministre
Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être, bah déjà là, ça va être comme sur Combini, on va déjà péter les scores grâce à ton interview. mais le premier ministre, ça sera pas mal aussi. Ce que tu disais juste sur la verbal strategy, ça me faisait penser à, je sais plus si c'est Marc Simoncini ou Xavier Niel qui ont des fonds d'investissement, donc qui sont dans des stratégies d'investissement. Moi, je trouve très anglo-saxonne, alors qui arrive hein, en France. Ils sont français et ils le défendent d'ailleurs, mais avec des partis pris. Et l'un des deux qui expliquait que il se faisait aucune illusion, c'est-à-dire que quand il investissait avec son fonds sur 10 startups, il savait pertinemment qu'au final, il y en a 9 et demi qui vont planter sur
ouais,
lesquels il aura investi.
Ça, voilà, c'est Xavier Niel. Et il dit de toute façon, c'est mieux que jouer au loto.
C'est ça. Mais celle qui va performer, et il sait pas forcément laquelle ce sera au départ, celle qui va performer, elle va rattraper toutes les autres.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, d'une certaine manière, il se donne sur 10, il se donne un quota de veste.
C'est ça.
Voilà. Mais en se disant, il y en a quand même une sur laquelle ça va passer. Mm. Donc, ouais, c'est absolument, moi, je trouve ça passionnant. Vraiment, le bouquin, je vous le conseille. Voilà, si que vous soyez en France ou au Québec, vous pouvez le trouver maintenant. La théorie de la veste, sous-titrée la théorie de la claque sur la gueule.
C'est pour, ça. Mais finalement, pour on a gardé Québécois. Le titre au Québec. Là, c'est la théorie de la veste et l'introduction dans la version québécoise. C'est quand j'explique comment se prendre une veste était parmi un des premières expressions françaises que j'ai appris. Quand j'ai commencé à parler le français, et c'est mon beau-père qui est plus français tu meurs, qui m'a expliqué cette théorie de la veste. Donc en fait, on en a discuté pour la première fois quand on était dans la fromagerie à Batignolles dans le 17e arrondissement. C'était la première fois où j'étais dans une fromagerie.
Ah ouais, très français effectivement.
Et je vais pas bientôt oublier cette expérience, hein, parce que l'odeur, c'est vraiment autre chose, quelque chose qu'on n'a jamais senti de notre vie, quand le seul fromage qu'on avait l'habitude à manger quand on vient de l'Alberta, c'est des Kraft Single Slices, une espèce de plastique, le couleur d'un cône de trafic qui est dégoûtant. Et ouais, on rentre dans la fromagerie. Ah non, mais c'est... Donc, il y a des bons fromages au Canada, hein, mais je vais dire que la fromagerie française, c'est quelque chose que quand tu le découvres, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je me souviendrai toujours de cette expérience.
Alléluia.
Enfin, au début, alléluia. Au début, c'est plutôt, je pense que je vais vomir. Mais après, oui. C'est, on prend goût.
Ouais, franchement, c'est, ouais, je comprends. Je comprends. Comme quoi, dans la théorie de la veste, contrairement à ce que je pensais, il y a quand même une part quand même bien française, puisque tout a commencé dans une fromagerie au cœur de Paris.
Eh oui.
Annabelle, c'est l'heure de terminer. Je voulais juste te remercier d'avoir pris le temps. C'est très,
merci,
très sympa. Sache que tu es la toute première personne qui a dit oui et qui a donc cassé mon quota de veste. Voilà.
Oh.
Et ouais, t'es la toute première personne. Donc,
ah non, mais moi, voilà. Chaque fois que tu me demandes de discuter avec toi, Jean-Michel, ça sera toujours oui. Parce que quel courage, quel bonheur, quel rayon de soleil. C'est purement le hasard qui a fait que nos chemins s'est croisés et je suis contente que c'est le cas. Donc, vraiment un plaisir, comme toujours, de discuter avec toi.
C'était un bonheur. J'espère qu'on se reparle très vite. À bientôt.
À bientôt.
Je te souhaite une excellente journée. Ciao.
Ciao.
Et voilà, fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants, tout ça vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette, à commercial. Ah oui, j'oublie aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez ? Qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause ! Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt !
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.